Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Il existe des mémoires qui divisent, qui opposent, en somme, qui constituent des frontières immatérielles, imaginaires, qui conditionnent la réalité. Comment se construisent ces mémoires concurrentes, qui instrumentalisent l'histoire et comment les combattre? C'est le thème du dernier volet de notre série sur les frontières, enregistré à l'Institut du Monde Arabe à Paris, avec deux invités spécialistes de l'histoire et des sciences sociales.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Sylvie Thénault.
Bonjour.
Directrice de recherche CNRS au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne et de la colonisation. Bonjour Christine Pirinoli.
Bonjour.
Directrice de la recherche et des relations internationales de la Haute École de Santé du canton de Vaud en Suisse. Votre travail est centré, lui, sur la Palestine. L'histoire, dit-on, est toujours racontée du point de vue du vainqueur. C'est souvent vrai, mais en réalité, l'histoire se heurte à la mémoire des belligérants et les événements ne s'écrivent pas ou plus de la même façon d'un camp à l'autre. C'est le cas évidemment avec la guerre d'Algérie, Sylvie Thénault.
Oui.
On ne la voit pas de la même façon selon que l'on est à Paris ou à Alger.
Oui, c'est évident. Il y a une chose qui me surprend toujours, c'est que souvent quand on dit que l'histoire est écrite du point de vue des vainqueurs, comme vous l'avez rappelé, bizarrement dans le cas franco-algérien, on pense que les Français sont les vainqueurs, alors que quand même je tiens toujours à rappeler que les vainqueurs finaux de cette histoire sont bien les Algériens qui ont accédé à l'indépendance. Et là où il y a une rencontre pour le coup entre histoire et mémoire, c'est que je crois que cette inversion un peu spontanée que je rencontre souvent dans les discours sur qui est le vainqueur et qui est le vaincu, elle est liée peut-être au bilan qui est tiré en Algérie parfois de 50 ans d'indépendance et où aujourd'hui la question principale qui émerge dans des moments de commémoration, par exemple 2012, 50 ans de l'indépendance, c'est moins la question du passé que la question du présent et savoir où en est-on aujourd'hui et quel bilan on fait de ces 50 ans de souveraineté.
Où en est-on aujourd'hui en Algérie, où en est-on aujourd'hui dans les relations avec l'ancien colonisateur?
Surtout où en est-on aujourd'hui en Algérie, parce que ce qui est quand même évident, c'est que l'immense majorité de la population algérienne aujourd'hui n'a pas connu la période coloniale. Et si vous considérez à juste titre la société algérienne comme une société quand même marqué par de multiples maux, il y a quand même la décennie noire qui d'ailleurs rentre parfois en conflagration avec la mémoire de la guerre d'indépendance ou de la colonisation. Et donc c'est une société très marquée, une société où il y a une souffrance, il ne faut pas avoir une vision trop victimaire, mais on sent de la souffrance, mais on ne sait pas trop ce qui tient au passé colonial, qui est quand même un passé lourd et violent, à cette guerre aussi terrifiante et très violente pour aboutir à l'indépendance, et puis ce qui tient à aujourd'hui des conditions économiques et sociales extrêmement dures, et puis encore une fois cette décennie noire qui a ensanglanté le pays.
Alors, même constat dans le conflit israélo-arabe qui dure depuis maintenant trois quarts de siècle. Christine Pirinoli, est-on face là encore à des mémoires concurrentes et les points de vue sont-ils encore conciliables?
Vaste question. Donc effectivement, les mémoires sont extraordinairement concurrentes. Non seulement concurrentes, mais on voit que la construction de l'une a totalement dénié toute possibilité à l'autre d'exister, que ce soit symboliquement au niveau du regard que l'on porte sur l'histoire, mais que ce soit aussi dans les traces qu'il en reste sur le terrain, puisqu'effectivement toute la mémoire palestinienne a été littéralement effacée du territoire aujourd'hui israélien, par la destruction des villages, par la destruction de toute trace de ce qu'il restait. Donc effectivement, toujours un conflit très important entre ces deux mémoires, qui est lié aussi à la poursuite du conflit, et j'ai envie de dire qui est peut-être lié aussi au fait qu'il y avait une grande proximité entre le regard occidental que nous avons porté sur la Palestine, avec ce biais orientaliste qu'a dénoncé d'ailleurs Edouard Saïd, et qui fait qu'il y a une grande proximité dans la façon dont nous avons conçu cet espace comme un lieu biblique, le lieu en relation avec nos valeurs chrétienne et ce qu'il en est advenu avec la mémoire sioniste. J'utilise bien sûr ce terme dans le sens du mouvement politique sioniste qui devait justement créer cet État d'Israël à partir de la mémoire juive telle qu'elle a été reconstruite pour s'implanter dans ce territoire.
Mais dans cette région, il y a plus qu'un mur, il y a une frontière mémorielle.
Effectivement, si l'on parle de frontières, il est intéressant de constater qu'il y a un mur objectif, qu'il y a des frontières objectives inscrites dans l'espace, avec l'idée que le plus l'un prend d'espace, le moins il y en a pour d'autres. Mais j'ai envie de dire qu'il y a surtout une frontière verticale aussi, puisque justement ces deux mémoires ne se rencontrent à aucun endroit. C'est-à-dire que, véritablement, l'inscription de l'une de ces mémoires dans l'espace a totalement effacé toutes les réminiscences de l'autre mémoire dans cet espace-là. On a donc véritablement une superposition d'un paysage, d'un espace sur l'espace de l'autre qui correspond aussi à la domination quand même extrêmement forte de la mémoire d'une certaine historiographie israélienne sur les discours palestiniens qui reste aujourd'hui quand même, malgré des historiens reconnus, mais qui reste un discours de mémoire beaucoup moins puissant que le récit qui fait d'Israël cette terre que les pionniers sont venus fleurir.
Mais est-ce qu'aujourd'hui les Palestiniens cherchent à se reconstruire une histoire ou à se construire une histoire en relation avec leur passé, véritablement ?
Oui, bien sûr, c'est extrêmement important pour eux, ce d'autant plus que ce passé leur est dénié. Donc il y a un double mouvement. Il y a un premier mouvement par rapport à la question de la mémoire, où en particulier à partir du processus d'Oslo, disons la bureaucratie palestinienne telle qu'elle se reconstruisait, je ne peux pas dire État puisque ça n'était pas un véritable État, cette bureaucratie a essayé de reconstruire un discours de mémoire qui allait dans le sens de la construction d'un État palestinien. Donc on a vraiment un discours qui était un discours révolutionnaire, qui se transforme au fil du temps pour devenir le discours dominant. Et là, il y a un premier conflit à l'intérieur de la mémoire palestinienne, puisque les Palestiniens ne voyaient pas tout ça du même œil et qu'on avait à ce moment-là des mémoires concurrentes. Mais il y a aussi cette concurrence, bien sûr, avec la mémoire sioniste, israélienne, qui elle non plus n'est pas homogène, hein, puisque les nouveaux historiens israéliens ont beaucoup contribué à recrédibiliser le discours palestinien aussi. Et vous avez aussi de plus en plus des chercheurs palestiniens qui arrivent depuis une vingtaine d'années à publier dans les réseaux scientifiques que sont les mêmes réseaux pour tout chercheur et qui permettent d'avoir ce regard. Donc on a un double mouvement à la fois sur la mémoire et sur une historiographie officielle.
Sylvie Thénault, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'Algérie est prisonnière de sa guerre d'indépendance, de la mémoire qu'elle en a encore aujourd'hui?
Je nuancerai ce propos. Une des difficultés quand vous parlez de l'Algérie est que vous êtes dans un contexte où vous avez du mal à avoir accès, je dirais, à la société civile, parce que quand vous vous posez des questions sur la façon dont une société regarde son passé, eh bien vous allez à la recherche des associations et de ce qu'elles disent, de la presse et de ce qu'elles publient. Vous essayez d'avoir accès à des individus. Et c'est vrai qu'en Algérie, on a quand même un discours du pouvoir qui est très écrasant et très dominant. Alors la prison, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a toujours un usage permanent du pouvoir algérien, du passé de la guerre d'indépendance pour se légitimer. Et c'est un discours qui est pesant, mais qui en même temps, avec le temps, finit certainement par lasser et être moins efficace. Y compris parce que la majorité de la population n'a pas vécu ni la guerre ni la colonisation.
كيرداس نشفو كل وناس نردي القصاص.
Reprenons notre débat concernant la mémoire, notamment à travers la guerre d'Algérie ou le conflit israélo-palestinien. Et alors, dans le cas de l'Algérie, comme dans celui de la Palestine, y a-t-il un impact de ces frontières liées à la mémoire que chaque belligérant a du conflit actuel ou ancien sur le comportement des sociétés elles-mêmes ?
Du côté français, l'impact de ce passé colonial et de la guerre d'indépendance en particulier est vraiment énorme, ne serait-ce qu'au plan quantitatif. Aucun autre événement de l'histoire de la colonisation ou de la décolonisation française n'a eu autant d'impact. Parce qu'il faut bien voir que si vous additionnez tous les témoins de cette histoire encore vivants ou leurs familles, vous obtenez un nombre qui se compte en millions. Vous avez les anciens combattants, vous avez les Français d'Algérie, vous avez les immigrés algériens, vous avez les harkis, et tout ça représente un potentiel de millions de personnes dans la société française. Donc il y a forcément des traces profondes et un impact très lourd, et qui se traduit en fait par un intérêt permanent porté à cette histoire. C'est-à-dire que on a toujours dans l'idée qu'il y aurait un tabou, qu'on n'en parle pas. Moi, au contraire, ce que je rencontre dans ma pratique d'historienne, et ce que vous voyez peut-être aussi dans les médias, c'est qu'on parle quand même beaucoup plus de la colonisation en Algérie, de la guerre d'indépendance, de bien d'autres situations. Si vous prenez Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, l'Afrique subsaharienne, l'Indochine, je suppose que vous faites moins d'émissions sur ces sujets. Et dans la société française, on n'a pas du tout la même demande. Donc il y a un impact très fort, oui.
Christine Pirinoli, est-ce que justement cette mémoire miroir que vous décrivez, donc si différente de part et d'autre du mur, en quelque sorte, entre Israël et Palestine, a un impact sur le quotidien des habitants? Est-ce que les habitants ressentent cette différence?
Oui, alors je pense que la différence est omniprésente. Elle l'est probablement d'autant plus qu'il y a une véritable incommunicabilité entre ces deux mémoires. Alors si je reprends les entretiens que j'ai faits avec mes interlocutrices et interlocuteurs, il est clair que chaque fois que je demandais si on se souvenait de quoi que ce soit concernant la vie au village, les gens me répondaient toujours en axant leur discours sur la terre cultivée, la terre travaillée avec ardeur, avec bonheur, et c'était quelque chose d'extrêmement récurrent. Donc on voit bien que cette histoire de terre sans peuple les travaillent énormément, et ils reviennent constamment là-dessus pour montrer que non, ils étaient présents, ils travaillaient cette terre, elle était cultivée, ils en prenaient soin. Ce qui fait bien évidemment écho à cette dimension de la terre sans peuple pour un peuple sans terre, avec l'idée que finalement, on est venu refleurir un désert qui avait été laissé en friche par les Palestiniens. Plus globalement que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est toujours de l'ordre de l'incommunicabilité au niveau du conflit. Alors, il est avéré avec les nouveaux historiens israéliens que, effectivement, les Palestiniens n'ont pas fui simplement comme ça parce qu'ils n'avaient plus envie de rester, mais qu'ils ont véritablement été chassés sous les bombes et qu'ils ont véritablement été empêchés de revenir. Ce que disaient aussi les Palestiniens, mais sans avoir la crédibilité pour faire entendre ce discours-là. Maintenant, il est clair que du point de vue politique, tout l'enjeu, c'est la question des réfugiés. Si on part du principe qu'effectivement ces gens ont été chassés de manière virulente, ont été empêchés de revenir, alors, pour le règlement du conflit, il faut passer par cette fameuse question du retour des réfugiés, qui est bien évidemment inacceptable pour les Israéliens.
Oui, qui pour l'instant est refusé par les Israéliens, il n'en est pas question.
Voilà, il n'en est pas question, et on voit bien que lors du processus d'Oslo, qui devait aboutir à la création d'un État palestinien, on a négocié différentes choses autour de cette question, des choses moins centrales et moins importantes pour permettre le dialogue, mais c'est véritablement à partir de 98, quand on a commencé à poser la question justement des réfugiés, que le processus a définitivement c'est définitivement enlisé en quelque sorte.
Mais comment faire pour rapprocher les mémoires qui sont si divergentes? Est-ce que la repentance, par exemple, dans le cas de la France avec l'Algérie, est une solution, enfin une voie, ou un premier pas peut-être?
La repentance, c'est un mot qu'il faut manier avec précaution, parce qu'en fait, il est utilisé par les gens qui sont opposés à toute forme de geste de réparation ou de reconnaissance des maux que les Algériens auraient subis, notamment pendant la guerre d'indépendance. Je crois qu'il faut vraiment distinguer les sociétés et les États. Dans les sociétés, les liens sont réels, les échanges existent. On n'est pas tellement dans des difficultés relationnelles, au plan des acteurs ou des groupes d'acteurs dans les sociétés. Au niveau des États, on est sur des questions qui sont des questions de politique internationale, et j'ai envie de dire de base politique. Clairement, il y a un usage du passé dans les relations entre les États français et algériens qui consiste en fait à le manier en fonction d'autres intérêts. C'est-à-dire que dans des périodes où on est dans des moments de rapprochement, on parle de traité d'amitié, alors là, tout le monde met sous le tapis les questions qui fâchent. Et puis dans les moments de tension, où on peut être dans des négociations plus compliquées, eh bien là, le passé colonial ressort
Christine Pirenoli, est-ce que dans le cas du conflit israélo-palestinien, il faudrait raconter l'histoire dans toutes les écoles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, qu'elles soient indépendantes, religieuses, tenues par les Nations Unies ou pas, la même histoire justement, plutôt que, comme c'est le cas aujourd'hui, des histoires différentes selon qu'on est dans telle ou telle école?
Alors, je ne pense pas que ça commence par l'éducation. Je pense qu'effectivement, à raconter l'histoire, la question est toujours de savoir quelle histoire, puisque finalement, l'histoire telle qu'elle est enseignée à l'école est quand même souvent le résultat d'un rapport de force sur ce que l'on veut dire du passé. Et pour raconter la même histoire, il faudrait qu'il y ait un destin commun qui aujourd'hui n'existe pas, puisque ce qui pose problème précisément aux Palestiniens, c'est que cette centralité sur cette terre et ce passé dont ils ont été dépossédés continue au jour le jour. On a mentionné le mur, hein, la création du mur qui a dépossédé les gens de leurs terres, mais on peut penser à toutes ces colonies d'abord illégales qui sont progressivement légalisées aussi par l'État d'Israël. On voit véritablement que cette dépossession de la terre continue avec un objectif bien précis qui est quand même d'agrandir l'État d'Israël, l'État hébreu n'ayant toujours pas posé définitivement et officiellement ses frontières. Donc j'ai envie de dire qu'avant de pouvoir avoir une même histoire, il faudrait que nous puissions voir un destin commun commencer à se forger. Et là, je reviens sur ce que vous avez mentionné, ça implique bel et bien une reconnaissance de ce qui a été fait de manière factuelle et une construction commune d'une interprétation possible de ce qui a été fait pour que l'on puisse vivre d'abord ensemble, peut-être dans l'idée d'un État, ce qui est quelque chose qui est valorisé par beaucoup de personnes plus âgées, qui n'est pas un discours politique aujourd'hui qui est valorisé, mais pour les personnes plus âgées, l'idée c'est véritablement de revenir à leur terre, quel que soit finalement le gouvernement, ou de revenir à une vie commune avec deux États séparés, mais chacun ayant la légitimité. Quoi qu'il en soit, malheureusement, nous n'en sommes pas là aujourd'hui.
Mais la reconnaissance est au-delà de la reconnaissance de l'État de l'autre, en quelque sorte. Car doit-on reconnaître, par exemple, lorsqu'on est palestinien, toutes ces colonies sauvages, ou d'ailleurs officielles, qui ont été créées en Cisjordanie et qui viennent gréver le territoire national? Ça, c'est compliqué.
Absolument, c'est compliqué, d'autant plus qu'effectivement, y compris le droit international, y compris les Israéliens, dénient cette légitimité au départ. Ce que j'entendais par là, c'est qu'il y a eu différentes options, hein, celle d'un seul État qui serait démocratique, qui n'est plus véritablement aujourd'hui une option politique, mais qui est encore revendiquée par les personnes les plus âgées, puisque ce qui les intéresse, c'est de retourner à leur terre. Donc effectivement, si on partait sur une solution de deux États, les Palestiniens avaient entériné la possibilité de récupérer les territoires de Gaza et de Cisjordanie. Donc pour eux, il n'est pas question d'accepter ces colonies-là qui se construisent aujourd'hui et qui ne se construisent pas par hasard non plus, qui se construisent pour créer des états de fait par rapport au conflit. Donc là, il y aurait une possibilité de renoncer à la Palestine historique pour avoir un état sur ces espaces-là, moyennant qu'il leur soit restitué dans quelque chose qui soit viable. Si vous regardez aujourd'hui la carte du territoire de la Cisjordanie, vous voyez qu'il s'agit, puisque je suis suisse, je me permets l'allégorie, de quelque chose qui ressemble plus au trou d'un Emmental qu'à une réalité, puisque justement le territoire est complètement mité par les routes, par les colonies, par les espaces militaires sécurisés, etc. Donc il faut absolument qu'on puisse revenir à quelque chose qui puisse être viable et faire sens avant de pouvoir recommencer à penser une mémoire qui se dans le respect de l'autre.
Sylvie Thénault, un mot concernant cette mémoire à retrouver sur la guerre d'indépendance de part et d'autre de la Méditerranée. C'est encore compliqué aujourd'hui.
C'est compliqué, oui. Peut-être dans des conditions très différentes de part et d'autre. Il me semble que quand même une grande différence aujourd'hui entre l'Algérie et la France et le rapport au passé, c'est la question des systèmes politiques dans lesquels on est. Je dois dire que lorsqu'il y a des polémiques sur ce passé en France, y compris avec des positions type nostalgie de l'Algérie française qui s'expriment, là où quand même je suis un peu rassurée, c'est de voir que le débat est possible, que le débat existe, et que tout peut s'exprimer. Donc, parce que je pense que retrouver le passé, c'est d'abord avoir la possibilité de le discuter, d'y échanger et que toutes les opinions s'expriment. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile en France qu'en Algérie.
Merci Sylvie Thénault, directrice de recherche CNRS au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle. Parmi vos nombreuses publications, citons « Histoire de l'Algérie à la période coloniale » que vous avez co-dirigée. C'est édité par La Découverte en France et par l'éditeur Barzac en Algérie. Merci Christine Pirenoli, directrice de la recherche et des relations internationales de la Haute École de Santé du canton de Vaud en Suisse. Citons dans votre bibliographie « Jeux et enjeux de mémoire à Gaza » aux éditions Antipode. Orient Hebdo, Les Frontières, une série enregistrée en public à la librairie de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Marc Fichet, François Porcheron, Éric Bataillon, à samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal.